Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vais citer un incroyable article sur toi d'une asso, c'est ça, qui s'appelle Les Femmes S'Animent,
ouais.
Qui fait un long papier sur tout ton parcours et tout, et que je mettrai en lien si vous voulez découvrir ce site, parce qu'il y a plein d'autres, il n'y a pas que toi.
Non, c'est pour ça.
Il y a plein d'autres femmes, si vous voulez découvrir d'autres femmes qui bossent dans l'animation, si je ne me trompe pas, et dans le dessin d'ailleurs, d'une manière générale.
Ouais, hein, c'est ça. C'est une asso extraordinaire que j'ai découvert récemment. C'est des femmes, enfin c'est un peu un contre au boys band, quoi. C'est vraiment, enfin au boys club, pardon. N'importe quoi.
Partir un jour sans retour.
Dieu. Non, c'est vraiment pour
c'est
contrer
Spice Girls,
le,
quoi.
Voilà, pour contrer le boys band.
Le boys club.
Boys club, ah oh.
Tu vas y arriver.
Tu vas y arriver.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Un jeudi sur deux, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses, allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préférée, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Mathilde.
Salut Fab.
Ça va?
Oui, très bien.
Bon Mathilde, je t'ai découvert par l'intermédiaire d'une de tes collègues d'atelier, dont on va parler d'ailleurs, parce que je trouve ça trop intéressant, cette logique d'atelier. Et j'ai vu que tu avais sorti un film, un film d'animation. Mm-hmm. Et j'ai vu juste après qu'en fait, ce film d'animation avait été nommé au César cette année.
Ouais.
Et bon, après, je t'ai follow sur Insta et tout. Et en fait, j'ai vu que tu as gagné le César.
Voilà, oui.
Bienvenue, congrats, waouh, voilà.
Sur le César ou sur Mathilde?
Sur le César.
Sur le César. mais j'étais. En fait, c'était un long parcours parce que entre le moment où on est nommé, il y a 12 films. Puis après, il y a une autre sélection, on n'est plus que 3. Et après, on va au César et on apprend. Donc, ce que beaucoup de gens m'ont demandé, c'est si on savait en avance. Et pas du tout. En fait, il y a des huissiers, on le découvre vraiment au moment où les 3 caméras sont sur les 3 différents réals. Et du coup, on sait à ce moment-là. La nomination. Donc la première sélection des 12 s'est faite par un comité donc de gens de l'anime assez pointus. Donc déjà, j'étais super honorée parce que c'était déjà une reconnaissance. Moi, c'était mon premier court-métrage. Et ensuite, les 3, donc c'est le vote de l'Académie des Césars. Donc on ne sait pas qui sont ces gens. Ils sont 4500 et ils sont... c'est des membres du ciné, quoi. Ça peut être de tous les milieux, script, producteur, distrib... qui du coup votent sur la plateforme et en 2 votes. Donc ils font un premier vote, puis 3, puis donc pendant la cérémonie.
Eh ben.
Non, c'était hyper émouvant. La cérémonie, c'était... Bah, j'imagine. J'étais très stressée. Ce qui est pas mal, c'est que ça arrivait en milieu de cérémonie, donc j'ai pu me détendre après. Parce qu'en fait, on est surex, en plus on a bu une petite coupe de champagne, on était avec... avec tout le monde, et puis moi, c'était... Enfin, moi, j'ai toujours regardé César, donc j'étais folle. Enfin, j'avais presque plus envie d'aller au César que de gagner le prix pour voir l'envers du décor. C'était trop rigolo, quoi.
Ouais, j'allais dire, t'as réussi à profiter de l'instant et de la cérémonie, parce que j'imagine à quel point c'est un... Tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Ah bah, c'était lunaire, quoi. C'était, d'un coup, c'était, ah, il y a Adèle Exarchopoulos, ah, il y a Marion Cotillard qui passe, on n'arrêtait pas. Enfin, on était comme à Disney, quoi. En plus, on avait invité un copain qui nous a fait rire et nous a beaucoup détendu, parce que lui, c'était... Il avait aucun... Comment dire, aucun enjeu à être là. Mmh. Du coup, lui, il a vraiment, il nous a fait tout le temps, il nous a beaucoup détendu. Il est sur le red carpet prendre en photo des gens. Il a fait le con toute la soirée. Après, il faisait semblant de manger avec les Césars quand on allait au Fouquet's ensuite. Car je suis allée deux fois au Fouquet's.
Incroyable.
Ma vie n'a plus de sens.
Sa vie. Oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, c'est là que se passe le déjeuner, c'est ça? Avant la cérémonie?
En fait, il y a un premier déjeuner pour les. Donc, nous, on était pour les nommés. Mmh. Donc ça c'était déjà très impressionnant et ensuite pour les gens qui vont à la cérémonie juste après la cérémonie qui finit quand même à minuit on va manger au Fouquet's donc de minuit à 2h du matin donc c'est très... Donc, j'ai pris mes habitudes au Fouquet's.
Quelle vie quand même.
Ça n'a aucun sens mais tout ça sur un week-end en plus donc après on reprend le lundi, on doit rendre les habits qu'on nous a prêtés, les bagues, enfin c'est assez donc c'est fini. C'est fini, ça semble comme une bulle, quoi.
Ah merde, la vraie vie reprend.
La vraie vie reprend. Ah bon, bah, je vais aller à mon atelier alors.
En tout cas, merci beaucoup Mathilde de venir. Et effectivement, tu me disais, c'est ta première interview en live, quoi, c'est ça?
En podcast, j'ai fait quelques interviews télé en direct. C'était très drôle aussi de voir les coulisses d'avant un JT et tout ça. Ouais. J'avais jamais vu ça, c'est trop rigolo. Ils font ça vraiment, c'est leur travail de se reconcentrer d'un coup et de dire madame, monsieur, bonsoir. C'était rigolo à voir. Et oui, c'est mon premier podcast et je suis très contente de le faire avec toi.
Ça me fait trop plaisir que tu le fasses avec moi, justement. On va parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours et de ton histoire de succès. L'idée de... En plus, tu t'écoutes le podcast, c'est ça que tu disais?
Oui,
tu connais déjà
tu connais juste pas écouté Histoire d'argent encore, mais j'ai écouté Daron et Succès.
Bon, du coup, ça me touche beaucoup. Histoire d'argent, oui, c'est très intéressant.
Oui,
tu veux pas trop mettre...
Il faut que je vois d'abord mon rapport d'argent avant de l'écouter. Non.
C'est très marrant le nombre de gens qui disent celui-là, je le vois, je le laisse à distance parce que
je
sais que c'est la boîte de Pandore, quoi.
Ouais.
Peut-être ça va.
J'avais déjà écouté comme podcast Rends l'argent.
Ouais.
Qui m'avait déjà
le
fait.
Le coq.
Donc, ouais. Ouais. Donc, je mets des choses en place ensuite, donc il faut que je me prépare.
Oui. C'est trop intéressant parce qu'il y a des. Je reçois des artistes aussi. Et il y a un truc qui est très, très intéressant dans le rapport entre gagner de l'argent grâce à ton art. Et souvent grâce à ta passion, grâce à, j'imagine, on va en reparler, mais c'est un peu ton, comment dire, le truc que tu fais depuis toute petite, quoi, tu vois, et d'en faire un métier et de finir par réussir à gagner de l'argent et d'assumer aussi de gagner de l'argent, voire même beaucoup d'argent si t'as envie de gagner beaucoup d'argent, quoi.
Ah ben là, je suis en plein dedans parce que, en fait, moi, ce que je trouve qui n'a aucun sens, c'est l'investissement qu'on met vis-à-vis de l'argent qu'on reçoit. Je pense que tu sais de quoi je parle, mais. En fait, j'ai fait un film sur 3 ans où j'ai mis toute mon énergie et où j'étais quand même très bien financée. On a reçu beaucoup d'aide et tout ça. Mais j'ai quand même vécu beaucoup grâce à mon intermittence. Et d'ailleurs,
t'as gagné de l'argent grâce à ton intermittence.
Enfin, disons qu'on a fait en sorte que j'ai mon intermittence. J'ai été très bien. Enfin, j'ai été bien payée. Enfin, justement et tout ça. Mais c'est tellement un processus hyper long que j'ai dû bosser sur mon intermittence, mais comme beaucoup. Et à côté de ça, je peux faire une pub en 2 semaines et gagner beaucoup d'argent. Et ça rend un peu. Enfin bon, ça montre que la vie n'est pas très, très logique et juste, quoi.
Mais parce que t'as la sensation que, par exemple, dans ton film, t'as mis toute ton âme.
Voilà.
L'intégralité de qui tu es.
Exactement.
Là où, dans un projet de commande, et donc t'as reçu finalement de l'argent, certes, mais assez peu par rapport à un travail qui est peut-être moins... Où tu t'investis moins dedans.
Ouais.
Tu mets moins de toi.
Moins de moi, moins de temps. C'est super étrange à comprendre, mais là, ce que j'essaye de trouver comme équilibre pour justement pouvoir faire les deux, d'aller d'un projet à l'autre pour gagner ma vie et pouvoir justement mettre toute cette énergie et travailler en étant moins payé parce que j'ai des sous de côté qui me permettent ça, quoi. Donc Et c'est ça aussi, c'est ce que tout le monde fait, varier entre de la commande et des projets de cœur, quoi.
C'est ce que, en tout cas, les artistes peuvent se permettre de faire,
oui.
Parce que les salariés, bon, ils sont juste salariés, quoi, tu vois, ils vont chaque jour au travail et après ils reçoivent leur salaire. Et c'est sûr que toi, tu as cette possibilité-là de pouvoir jongler entre les projets, quoi. Mmh. Entre les projets perso, peut-être moins rémunérateurs et les projets peut-être.
Ouais. Puis j'ai découvert l'intermittence qui est un truc extraordinaire, quoi, qui permet vraiment, j'en parlais justement à Rachida Dati, que j'ai rencontré.
Excusez-moi, madame.
Non, que j'ai rencontré, mes producteurs ont bien rigolé en me disant que... En me demandant, je suis allée au festival de Clermont-Ferrand, du court-métrage, qui est extraordinaire, qui est vraiment un super festival. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais tout à l'heure? Parce que tu rencontres Rachida Dati. J'étais là, mais je suis obligée. Ils m'ont dit, c'est pas mal. Et du coup, avec des copines, on s'est dit, bah, il faut absolument que je parle de l'intermittence.
Bien
pour
sûr.
La seule fois où j'aurai une fenêtre avec quelqu'un du gouvernement.
Bien sûr.
Bon, alors ça n'a pas... Enfin, je suis très fière de lui avoir dit que c'est ce qui faisait l'excellence française et que vraiment ça nous permettait d'écrire des films parce qu'on ne devait pas justement se soucier trop de comment on allait faire le prochain mois parce qu'on avait une sécurité si on travaillait et qu'on... Enfin, de toute façon, on cotise pour ça. Bon, ça n'a pas eu l'air de beaucoup la toucher, mais c'est vraiment un système extraordinaire, quoi, qui permet aux créateurs de faire des films intéressants. Parce qu'on sait très bien que quand on doit bouffer, c'est pas possible de prendre le temps de réfléchir à une histoire, quoi.
C'est clair.
Voilà.
Bon, on va en parler. mais avant ça, à quoi tu ressemblais, Mathilde, quand tu avais 7-8 ans?
Alors, du coup, j'ai juste préparé un tout petit peu cette question. En fait, je voulais dire, moi, plus un tout petit peu plus tard, qu'il y a un truc qui m'a marqué, c'était vers peut-être 9 ans, 9-10 ans, quoi. Donc, je pense que ça va.
Ouais, okay. C'est bien. Tu décides, en fait... c'est toi qui choisis, je ne vais pas aller vérifier.
Non, non. moi, j'étais née à Paris, donc j'ai grandi à Montmartre. Et en fait, c'est cette période-là, donc vers le CM2, je crois, où mes parents ont décidé d'aller vivre à la campagne pour mon plus grand bonheur. Et c'est là où j'ai rencontré énormément de super copains qui sont restés dans ma vie, dont ma productrice.
Incroyable.
Voilà, donc on s'est rencontrés en CM2.
Wow.
Ouais, donc ça c'est un truc assez marquant et c'est vrai que je me souviens très bien de cette vie parisienne où on allait beaucoup les week-ends à la campagne parce qu'on avait mes parents avaient des copains là-bas et ils ont décidé du coup de s'installer là-bas et j'étais folle de joie de me retrouver à grimper dans les arbres et enfin il y avait tout un champ qui s'ouvrait. Mais je me souviens aussi que du coup j'ai réfléchi à depuis quand je dessinais et donc je dessine depuis toujours mais c'est vrai qu'à Paris on est quand même beaucoup dans des appartements et je me souviens m'être beaucoup ennuyée petite. Mais ça m'a toujours amené au dessin.
Oui, c'est-à-dire que l'ennui t'a amené à te mettre devant une feuille de dessin et
à créer des projets, quoi.
Ouais.
Enfin, des projets, des BD, des...
Mais des projets.
Ouais.
Franchement, c'est parce que t'as 7-8 ans que tu crées pas des projets.
Non, non, c'est vrai.
Au contraire.
Et c'est vraiment venu de ça, quoi, de cet ennui parisien que j'ai... Mais, enfin, parisien est un peu... Enfin, quand on est enfant, on s'ennuie, quoi.
Ouais.
Je me souviens aller voir ma mère, elle me dit, je m'ennuie. Elle me dit, bah tiens, t'as des crayons, là.
T'étais fille unique?
Non, j'ai une petite sœur.
Ok. Et tu jouais pas avec ta sœur de cette là, t'étais un peu dans...
Si, c'est vrai, mais c'est marrant à Paris. Bah... Ah ouais, c'est marrant, je me souviens m'ennuyer alors que...
Non, bah,
mais
après,
si
c'est un souvenir.
Ce podcast, tu m'as jamais ennuyé. Hein,
non, mais c'est un souvenir que t'as, tu vois. Qui...
On avait un peu de différence, donc peut-être qu'elle était plus occupée à enlever les têtes de mes Barbies, à me rendre la vie difficile.
Cool. Petite deuxième. mais tu veux dire aussi de ce fait que quand t'es arrivé à la campagne... Peut-être tu passais plus de temps dehors.
Ouais.
Et peut-être moins devant tes dessins, quoi.
Ouais, je me rends pas compte. Peut-être. Peut-être. Bah, j'ai jamais arrêté de dessiner, mais c'est vrai que je me souviens que ma mère posait un gros pot de crayon et qu'on dessinait beaucoup. J'ai l'impression de faire beaucoup d'activités du fait d'être dans des appartements à Paris. J'ai une vie très, très joyeuse. On s'en faisait plein de trucs les week-ends et tout, mais... Mais c'est vrai qu'on est plus à l'intérieur, quoi. L'occupation, elle est...
Ta mère est artiste?
Non, mais sa sœur est architecte.
Okay.
Et du coup, elle avait repris on en reparle toujours, le truc d'avoir un gros pot rempli de crayons.
Pour dessiner, quoi.
Pour dessiner, faire des activités.
Ok. Trucs. Trop bien. T'as fait un... Alors, c'est assez rare que je fasse ça, mais je vais citer un incroyable article sur toi, d'une asso, c'est ça, qui s'appelle Les Femmes S'Animent, qui fait un long papier sur tout ton parcours et tout, et que je mettrai en lien si vous voulez découvrir ce site, parce qu'il y a plein d'autres, il n'y a pas que toi.
Non,
il y a plein d'autres femmes. Si vous voulez découvrir d'autres femmes qui bossent dans l'animation, si je ne me trompe pas, et dans le dessin d'ailleurs, d'une manière générale.
Ouais,
hein,
en fait, c'est une asso extraordinaire que j'ai découvert récemment. C'est des
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Femme du... Enfin, c'est un peu un contre au boys band, quoi. C'est vraiment... Enfin, au boys club, pardon. N'importe quoi.
Au boys Partir band. Un jour sans retour.
Dieu. Non, c'est vraiment pour
c'est
contrer
Spice Girls,
le...
quoi.
Voilà. Pour contrer le boys band...
Le boys club. Le
boys club. Ah, oh,
tu vas y arriver.
Tu vas y arriver. Le boys club, donc ce truc de d'avoir des... ce truc de scopter pour les
entre,
boulots
entre
voilà
mecs,
ouais. Et du coup moi ça m'a hyper touchée parce que c'est des femmes de l'animation, mais c'est pas que c'est de tous les âges. Donc par exemple moi j'ai été aidée par une femme qui s'appelle Patricia de Will qui a fait toute sa carrière dans l'anime, dans la vente de produits parallèles et tout ça, et qui m'a dit bah attends, ton livre ça serait trop ton film ça serait trop bien qu'on en fasse un livre par exemple. Enfin, et c'est un truc vraiment d'entraide, et je trouve ça hyper riche de se dire on va s'entraider, on va se faire des, elles font des par exemple j'avais fait un rendez-vous, enfin un coaching sur la confiance en soi. En plus il y a des apéros pour se rencontrer, pour parler de, enfin je sais pas, pour, elles ont un système de tutorat pour s'accompagner les unes les autres. Enfin, je trouve que c'est extraordinaire comme idée, quoi.
Qu'est-ce qui fait, de ton point de vue, qu'il y a un truc très naturel chez les mecs de créer des boys clubs, tu vois, et que c'est peut-être un truc moins naturel chez les femmes, en tout cas de ton expérience à toi et de ton vécu?
Franchement, je comprends pas.
Ouais.
Je sais pas, on a peut-être peur. En fait, je pense que c'est une histoire de comment on nous a placées en rivalité les unes avec les autres depuis le début, quoi. Mais j'espère que... Et j'ai l'impression que ça, qu'on s'en écarte. Mais je sais pas, ça doit être un truc un peu qui est monté avec le temps depuis le début du patriarcat.
Oui, depuis... voilà. Environ la nuit des temps, sans aucun doute, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est... Justement, tu vois, je me demandais à quel point ça change aussi dans le milieu, par exemple, de l'animation, tu vois. À quel point il y a de la mixité qui est en train de revenir, à quel point il y a des mecs peut-être qui vont faire appel à des femmes alors que peut-être avant c'était moins le cas, etc. Tu sens que ça bouge un peu, toi?
Franchement, j'ai pas de vision à 360, mais moi, en tout cas, c'est un truc auquel je fais hyper attention. Mais sans y faire attention, en fait, ça se fait super spontanément. Mon équipe, elle a été très féminine. Donc les personnes hyper importantes au poste clé, donc les décors, par exemple, c'est une amie à moi, Fleur Pinsard, ma productrice, qui est aussi une amie, Ninon Chatuy, du CM2, et aussi une femme. Ma première assistante, c'était une femme. Ma monteuse, c'était une femme. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Mais malgré moi, parce qu'en fait, il y a un feeling, on se comprend, j'ai pas besoin de faire des phrases compliquées, même si je dis peut-être qu'elles ont compris, on y va. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un truc très, très, très simple. Et aussi, on partage, je pense, une sensibilité. On partage des... Ouais, on parle des mêmes choses, quoi. Après, c'est un certain type de femme. Je veux dire, c'est des femmes qui sont mes amies, donc c'est
oui,
simple.
Oui, c'est avant tout des amies, avant de devenir des...
Ouais.
Ah, ok. Putain, c'est trop
rare.
Bien.
C'est trop bien, je suis trop contente.
Ouais.
C'est une chance infinie.
Et c'est des amitiés que t'as créées par l'intermédiaire de ton réseau et de ton boulot, c'est ça ou...
Non, c'est vraiment
non, c'est des amis avant.
Ouais. Ninon, du coup, que j'ai rencontré au CM2, donc je pensais pas qu'elle serait... Enfin, on n'avait pas signé pour faire un film ensemble quelques années plus tard. Et Fleur, c'est une copine des Arts Déco.
Ok.
Mais on... Bah, d'ailleurs, on avait monté un premier collectif ensemble avec d'autres copines des Arts Déco et... Et pareil, moi, l'amitié, c'est très important pour moi. Enfin, je me sens trop chanceuse d'être entourée de gens talentueux. C'est aussi des gens très talentueux, mais qui sont aussi mes amis. La personne qui a fait le compositing, Quentin Letout, c'est un copain. Aussi, c'est un ami, donc c'est...
C'est quoi le compositing?
Le compositing, c'est d'agencer...
Je vais sans doute te poser des questions idiotes, hein, tu vois, mais...
des mots un peu niches.
Non, t'inquiète.
Le compositing, c'est le fait d'assembler l'image. Par exemple, moi, j'ai des personnages et j'ai des fonds qu'il faut assembler ensemble,
ah, oui.
Faire en sorte qu'ils aillent bien ensemble. les intégrer, quoi, plus tout le travail de lumière, de, par exemple, dans mon film, à un moment, il y a un feu qui crépite, ça s'est fait par le compositeur, les éléments naturels, la pluie, les vagues,
okay.
Ce genre de choses.
On va en parler, mais ton film est réalisé que sur du papier.
Oui, ça n'a aucun sens. Au crayon de couleur, sur papier.
À l'ancienne, quoi.
À l'ancienne, en 8 images seconde.
C'est incroyable. Tu peux tout raconter tout ça. Mais effectivement, tu fais un bac à la base option art plastique. Donc, tu as déjà une velléité de faire ça, c'est ça, dès le lycée. C'est clair
ouais,
pour
non,
toi.
Vraiment,
que tu vas...
depuis les débuts. Hein, quand je te dis que je dessine depuis petite, j'allais d'ailleurs, mes parents m'emmenaient dans un endroit que j'adorais à Montmartre, qui existe encore, qui s'appelle l'Atelier. Et c'est des enfants. Enfin, c'est une espèce de garderie, mais tournée vers l'artistique. Donc, j'ai des photos de moi super petite en train de peindre de manière très, très sérieuse. Mais du coup, je pense que j'ai eu ça dès le début. Après, j'ai été dans une école à Montmartre géniale, qui était une sorte de ZEP, où du coup, ils mettaient des. Enfin, ça a été extraordinaire cette école. L'après-midi, on avait des activités. Donc, on faisait du yoga, de l'art plastique. C'était trop bien.
Wow.
Ils mélangeaient, ils intégraient vachement bien les gens qui arrivaient en France. Enfin, c'était une ouverture. Enfin, elle était extraordinaire cette école. Ça m'a vachement nourrie et on a fait beaucoup de...
L'éducation parisienne, quand même, c'est... Enfin...
Bah, ça dépend des écoles, mais celle-là, elle était extraordinaire. C'était
en
comme
tout cas,
être au collège.
Ça existe à Paris, quoi.
C'est-à-dire on changeait de classe.
Waouh.
C'était super, quoi. Il y avait une mixité folle. On faisait des activités trop bien. Enfin, c'était trop bien. Et c'était public, hein. C'était pas un truc Montessori.
Oui.
Et c'était...
Ouais. Fin du 20e siècle, quoi, tu vois.
Ouais.
C'était pas. C'était pas l'année passée, quoi.
Et ça, c'était. Je pense que ça m'a vraiment nourri aussi artistique. Enfin, je me souviens très bien de ma prof d'art plastique, qui nous avait fait faire des trucs fous, quoi. Donc, ça m'a suivi naturellement jusqu'à l'option art plastique.
Tu trouves que ça t'autorise dès le plus jeune âge à te dire, ok, c'est une vraie activité, quoi. C'est pas juste un loisir que tu fais justement parce que tu t'ennuies, quoi.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, moi, j'ai vu des modèles autour de moi aussi assez artistiques. Donc, je me suis toujours autorisée à me dire que ça pouvait être un métier.
C'est qui les modèles autour de toi ?
Mon père, il est réel aussi.
Ah, yes.
Donc, c'était une vision de, déjà du travail, ce qu'on disait, de ne pas aller dans un bureau, il travaille de la maison, de ne pas d'avoir des horaires. Enfin, l'intermittence, je connais ça depuis que je suis toute petite. Le truc de partir 3 semaines en tournage. Enfin,
oui.
j'avais déjà une vision des possibilités, quoi.
Ok. Que tu voyais pouvoir s'en trouver,
oui.
En tout cas.
Ouais.
En revanche... Le lien avec le dessin, a priori, il n'y en a pas spécialement.
Non, okay. ça c'est moi. C'est mon truc. Oui, parce que ma sœur ne dessine pas, c'était mon truc.
Après ton bac, tu fais Olivier Dessert, c'est ça, si
ouais.
Je ne me trompe pas.
Alors, je vais encore dire un truc qui n'existe plus, mais moi j'ai fait une Mana. Alors, j'ai oublié
ah, oui.
Comment ça s'appelle maintenant. C'est une mise à niveau
c'est
en art appliqué.
Niveau,
quoi.
Ouais.
Et,
c'était cool.
C'était la meilleure année de ma vie, je crois.
Ah ouais.
Enfin, non, mais de ma vie de... d'étudiante. Parce que c'est le moment où tu te retrouves avec tes pairs. Donc, on était tous les meilleurs en dessin dans nos lycées respectifs. Et d'un coup, tu te dis, ah, en fait, tous ces gens... Parce que toi, t'es un peu le weirdo qui dessine.
Au lycée, ouais.
Ouais, tu vois, qui...
tout seul.
J'étais toute seule à dessiner. Enfin, une des seules. On venait, je me souviens, au collège, on venait me demander des dessins spéciaux, de recopier des trucs et tout. Et c'est vrai que là, d'un coup, on se retrouve avec ses pairs et on était fous, quoi. On était trop, trop contents. On passait notre temps, je me souviens, c'est à peine si on mangeait à la cantine, on se retrouvait, on se dessinait toute la journée, on faisait des croquis, on vivait pour ça, quoi. On était... C'était ah, waouh, enfin, on est dans ce qu'on aime faire.
Ouais.
Chaque cours nous éclatait, quoi. On faisait de la sculpture, de la gravure, de la peinture, enfin...
Il y a un truc autour du collectif, non ? Un peu, j'ai l'impression.
Ah ouais,
dans
on était
ton parcours
une bande,
d'une manière générale.
Ouais, on était une bande, une promo, je crois, qui a été très, très groupée, quoi. Enfin, très, très liée. Et ça nous a hyper marqué cette année ensemble, quoi. De pouvoir faire ça tout le temps, quoi. Donc, de passer nos journées à faire des projets, c'était extraordinaire.
Qu'est-ce que ça t'amène, le groupe, à ce moment-là ?
Je sais pas, bah, c'est toujours mieux de partager
non,
la joie. Quoi. Enfin,
pas, tu dis pour toi, sans doute, ouais, mais je crois qu'il y a des artistes qui préfèrent être terrés dans leur coin et faire leur truc.
Ah non, moi j'adore le groupe.
Ouais.
Même si on fait chacun à côté, même si c'était pas très projet collectif, mais de dessiner ensemble, de se dire, ah regarde, enfin, on était fous, on était, ah regarde, j'ai découvert ça en nu, ça c'est la maléole, on peut la dessiner comme ça. Enfin, c'est des trucs très précis, mais on apprenait ensemble. Je sais pas, je me souviens de ça.
Ouais.
Ça ouais, de partager cette joie de faire enfin, d'être à notre place, quoi. Et avec des gens qui comprennent de quoi on parle, enfin, quoi. Qui sont excités pour les mêmes choses, quoi.
Ok. Tu fais quoi après cette année de Mana, alors ?
Eh ben, je passe le concours des arts déco. Et je suis prise, concours très, très difficile, quand même.
Oui.
Il faut le rappeler. Et une fois qu'on est dedans, après, c'est bon. Hein. Il faut juste le passer. Après, ouais. C'est très... je passe le concours et je suis reçue. Et je suis hyper contente. Et du coup, je vais aux arts déco. Donc, je refais une première année. Parce qu'il y a une année de tronc. Alors, ça va peut-être encore changer, donc je vais arrêter de dire des trucs. Mais pour moi, il y avait une année de tronc commun. Où du coup, on rentre par... je crois qu'on était 80. Donc, par session, quoi. Mmh. Et du coup... il y a des classes et on fait encore beaucoup d'expérimentation. En fait, c'est une manière, les arts déco, il y a à peu près 12 sections, je crois. Il y a du graphisme, il y a du stylisme, de la couleur et matière, de l'animation, de l'illustration, du design graphique, enfin, il y a plein de choses. Et du coup, c'est une manière de rencontrer un peu tous ces métiers par des workshops, des ateliers et tout ça. Et ensuite de choisir et d'émettre des vœux, parce que c'est pas toujours sûr qu'on l'a.
Ouais.
Et c'est là où j'ai vraiment choisi que je voulais... Moi, j'hésitais un peu entre illustration et animation. Et là, on a fait un exercice qui a été vraiment important pour moi dans cette prise de choix. C'est qu'on a fait un exercice qu'on a dégoûté beaucoup, qui est sur un papier rouleau de caisse enregistreuse, tu sais. Et on devait faire une petite animation là-dessus. Donc dessiner des centaines de fois la même image, quoi.
Ouais. En tout cas, qui changeait à chaque fois une demi...
Qui changeait, voilà. Mais du coup,
c'est... tout petit truc, quoi.
Voilà, ouais. Et c'est ce moment où tu te dis, ok, ça me va très bien de redessiner à l'infini une image qui bouge d'un poil. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais ça, parce qu'il y en a plein que ça a dégoûté, ou qu'on trouvait des stratagèmes pour pas redessiner. J'ai une copine notamment qui est très maligne, qui a collé des gommettes. Et du coup, ça faisait un truc super, mais ça lui a pris 10 minutes. Alors que moi, j'ai passé des nuits blanches avec mon rouleau de caisse enregistreuse.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de, comment dire, de refaire plusieurs fois avec à chaque fois un petit détail ?
En fait, je crois que j'arrive à me projeter dans le mouvement. Du coup, j'ai pas l'impression de refaire. Enfin, pour moi, c'est un nouveau dessin. À chaque fois, je l'envisage comme un nouveau dessin. Et ce que j'aime, c'est me dire qu'on peut extraire un dessin et que c'est un dessin qui est valable à lui-même, quoi. Donc, du coup, j'y passe beaucoup de temps. Mais ça peut être un dessin qu'on encadre et enfin, c'est à chaque fois je refais un dessin à chaque fois, quoi.
Ah oui.
J'y repense comme ça. Et puis je trouve vraiment le moment où on les met bout à bout et que ça bouge tout seul, je trouve ça fou, quoi, de se dire je peux créer un truc dans ma tête qui va ensuite vivre sans moi. Ça me je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est fou.
Qui va ensuite vivre sans moi.
Non, mais que quelqu'un appuiera et le verra. Enfin, c'est très étrange, quoi. Il y a un truc assez fou.
Qui est différent pour toi de filmer, par exemple ? Parce qu'on va en parler, mais t'es 96, vous avez tout filmé, quoi.
Ouais.
Ça aussi, j'ai découvert. J'étais là, ah ouais, donc... c'est différent pour toi de venir le dessiner par rapport à, je sais pas, filmer quelqu'un ou filmer quelque chose comme ça ?
Bah, disons que filmer, on sait que ça... Enfin, on a l'habitude, alors que c'est vrai que l'animation, c'est plus... Bah, et puis j'y mets beaucoup plus de moi, aussi. Et c'est un dessin... Enfin, vu que moi, ce qui m'amène, en fait, vraiment là, c'est le dessin. De me dire que mes dessins peuvent bouger, c'est vraiment l'achievement, quoi.
T'as grandi avec des dessins animés, ou il y a un truc dans l'animation qui t'a toujours un peu titillé, ou ça t'est venu comme ça ?
Comme tous les enfants, hein, j'ai regardé même...
Ouais.
Comme tous les enfants, je crois. J'ai pas... Enfin...
Oui, il y a pas de t'as pas eu un coup de cœur spécial pour
Bah, j'ai adoré tous les dessins animés que j'ai regardés, mais il y a pas, je te citerai pas un truc que j'ai vu hyper niche qui m'a... Non, je crois que c'est vraiment le fait de faire bouger un dessin qui m'a marqué. Plus j'y réfléchis, parce que c'est, tu sais jamais quand tu le fais, et puis en y réfléchissant, je crois que c'est ça.
C'est de donner vie, quoi, finalement.
Donner vie, ouais, de rendre vivant un truc, quoi.
OK.
Un dessin.
Donc c'est à ce moment-là que tu décides de te lancer dans l'animation, en tout cas. Grâce à ce rouleau de caisse enregistreuse. Et en fait, j'ai lu dans cet article que t'étais, tu veux après passer Gobelin, c'est ça ?
Ouais, j'ai une histoire un peu dure. Enfin, pour moi. Non, mais pas dure, mais c'était dur pour moi parce que les arts déco, c'est quelque chose, c'est une formation très artistique, très libre. En fait, chacun. En fait, il n'y a pas de. C'est pour créer des. C'est pour former des réalisateurs, mais pas des techniciens. Alors que les gobelins, c'est vraiment, on forme vraiment des techniciens. Il faut être extrêmement doué en dessin. Et moi, du coup, quand j'étais aux arts déco, je crois en troisième année, j'ai passé le concours des gobelins. Et j'ai été prise, mais première sur liste d'attente. Mmh. Et personne ne s'est désisté. Et je pense que c'était mon parcours et que c'était le destin, parce que, en vrai, je suis super contente d'avoir fait les arts déco. Mais ça m'a aussi montré que j'aurais pu le faire et que j'avais quand même un truc un peu technique. Donc ça m'a finalement quand même fait du bien, même si je me souviens avoir attendu tout l'été en me disant, mais on va m'appeler, il y a bien quelqu'un qui va se désister. Enfin, il y a toujours des gens qui se désistent, quoi.
Ouais.
Aux arts déco, il y a peut-être 15 copains qui sont rentrés parce que des gens sont désistés. Mmh. Donc c'était un peu...
Un peu dur à avaler.
Un peu dur à avaler, surtout qu'après j'étais
c'est
en
ton
échange.
C'est ton premier échec en plus, globalement, de ton...
De... Ah oui de... scolaire, ouais.
Ouais, scolaire. Ouais,
oui,
ouais,
ouais. Vu qu'on en avait parlé, que je suis assez scolaire, c'était dur à avaler.
Ouais, ouais, non mais je comprends en plus. Ouais. Hein, c'est... T'avais quel âge? T'avais 22 20...
Ouais.
C'est ça, 18... 21-22 quoi.
Je suis rentrée à 18 ans aux arts déco. Oui, à peu près. Mm. Et après, en plus, du coup, j'ai pas lâché, j'ai voulu le repasser, sauf que j'étais en échange à New York, c'était extraordinaire ça, dans la School of Visual Arts. Et je suis rentrée exprès plus tôt de mon Erasmus pour le passer, et là, j'ai même pas été prise à la première étape, quoi. Mmh. Donc après, je me suis dit, ok, j'arrête.
T'avais la sensation d'avoir besoin de technique, c'est ça?
Bah, en fait, quand on fait ces études-là, on a toujours envie de savoir animer, quoi, de faire des trucs comme on voit, justement, dans les Disney, dans les Miyazaki, des trucs très techniques. Mais en même temps, je me suis rendu compte que c'est grâce aux arts déco et au fait qu'on n'ait pas appris la technique que j'ai trouvé ma propre technique. Mmh. Et finalement, c'est beaucoup plus riche. Mais c'est dur à accepter quand on est nourri de plein de films d'animation et qu'on veut faire. Et du coup, moi, j'étais un peu fâchée quand j'étais aux arts déco parce que je me disais, pourquoi ils nous apprennent pas, quoi? J'ai fait tout un mémoire sur de l'animation d'eau, j'ai regardé des vagues, j'ai essayé de les retranscrire, et puis après j'ai appris que en fait mon prof, il avait une référence de bouquin parfaite, où il y avait tout ça qui avait été fait par Disney, et que lui-même avait animé chez Disney des effets spéciaux, comme on dit.
Ouais.
Mais il avait fait exprès de pas me le dire pour que je réfléchisse à moi comment je représenterais de l'eau, quoi. Et maintenant que j'ai réfléchi, je trouve ça génial, bah mais ouais. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi il m'a pas fourni ça? C'était justement pour pas que je rentre dans une case, quoi, dans un formatage.
Et t'as la sensation que le fait de pas être rentré dans cette case, ça t'a justement ouvert plus de portes?
Bon, en tout cas, ça m'a ouvert un style propre et personnel dont je suis très heureuse.
C'est marrant parce que je suis vraiment, moi, autodidacte. Ça me fait penser à un truc parce que je suis totalement autodidacte sur Photoshop, tu vois, notamment. Donc, je te parle de ça il y a fort longtemps. C'était sur Photoshop 2, calmez-vous. Et en fait, c'était drôle parce que je me suis retrouvé dans un centre aéré avec un mec dont c'était le... Il faisait des études, tu vois, de graphiste. Et en fait, c'était trop drôle parce que tu sentais vraiment qu'il avait appris de façon scolaire et qu'en fait, il était incapable de faire des trucs que moi, j'avais appris parce que en fait, je passais par des chemins totalement détournés. Et donc, je lui montrais des trucs. Il était là, ah ouais, tu fais comme ça et tout, c'est trop bizarre et tout. Je suis là, bah ouais, enfin moi, je sais pas comment faire autrement. Alors que lui, il avait bien sûr été formaté dans un truc de, ok, tu fais d'abord cette étape-ci, puis après cette étape-là, etc. Ce qui l'empêchait finalement de pouvoir se dire, ok, c'est quoi l'autre chemin, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est
bah,
ça.
C'est exactement ça. Ça rend moins créatif parce qu'on te donne un mode d'emploi, quoi. Mmh.
Comment t'as été chercher alors ton style?
Bah, il est arrivé très longtemps, en fait. J'ai fini mes études. Moi, j'ai fait mon film de fin d'études. Il est en animation traditionnelle sur papier, mais du coup, pas sans me servir donc, de la rotoscopie. La rotoscopie, c'est le fait de se servir d'un film pour redessiner, de prise de vue réelle. Et du coup, j'ai vraiment poussé jusqu'à mon film de fin d'études d'essayer de faire cette animation traditionnelle d'imagination. Et petit à petit, j'y suis venue en... Bah, parce que j'ai trouvé cette manière-là pour avoir un rendu réaliste et qui me convienne et qui soit... que je trouve bien animé, finalement.
Oui, donc t'as mis du temps, quoi.
Ouais, j'ai mis super longtemps. J'ai mis super longtemps.
Si je me trompe pas, tu viens à la rotoscopie un peu plus tard, hein, c'est ça? Quand tu fais le film de le clip de Gush.
C'est ça.
Qui est un groupe que je porte dans mon cœur.
Parce c'est
que
vrai.
Je crois que j'ai fait l'une de leurs toutes premières sessions acoustiques chez Mademoiselle il y a fort longtemps.
Ah bah ouais.
Au tout début. Et en fait, ouais, ils t'ont. Comment ça s'est passé?
Alors,
c'est un appel
fait,
à projet,
moi,
c'est ça?
En fait, je suis sortie des arts déco. Ensuite, Alors, ça dépend si je raconte ça.
Vas-y.
J'ai passé 6 mois un peu difficiles parce que du coup, on sort des arts déco en nous disant, vous êtes réalisateur, super, allez-y. Et puis, personne n'appelle, quoi. Il faut trouver les premiers trucs. Donc, encore une fois, c'est une école géniale, mais pas professionnalisante. Et on arrive un peu dans la nature. Donc là encore, moi, toujours cette histoire du collectif, des amis, on se regroupe dans des locaux à Belleville. Non, avant ça, encore ailleurs. Donc avec justement Fleur qui a fait mes décors, d'autres copines, on était 6. On se regroupe. Donc ça, ça me donne vachement de force parce que du coup, pour gérer les premiers clients, on se montrait des modèles de facture, on s'aiguillait, on se disait là, tu peux demander tant. Enfin, c'est super dur au début.
Tu m'étonnes.
On était des bébés, quoi. Donc on s'est beaucoup entraidés.
Ça, qui c'est qui a eu l'idée de se regrouper parce que ça... C'est pas un truc très naturel, je trouve, tu vois. C'est à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise venez.
Je crois qu'on a fait tout le constat que c'était trop dur d'être chez nous toute seule et on s'est dit qu'on avait envie de reproduire une classe, enfin la maison, quoi, les Arts Déco. Et je ne sais plus qui a eu l'impulsion, mais ça s'est fait super vite. Okay. On a trouvé un atelier bon, qui au début était très bric-à-brac, mais petit à petit, on est bougé d'atelier en atelier. Désormais, j'ai un atelier très très beau.
Et bravo. Et un César également, excusez-moi.
Et on était ensemble, et ça, c'était vraiment, ça m'a porté. Et ensuite, j'ai, à côté de ça, trouvé un travail fixe en CDI, quoi. Un truc que je referai plus, mais qui, pour le coup, m'a donné un cadre où j'étais dans une boîte où on faisait des films de commande à destination de clients. Ça pouvait être Auchan, Petit Bateau, Chanel. C'était beaucoup pour leur com interne. C'était un peu le moment où on s'est dit, en animation, on arrive à faire passer des messages sympas. Voilà, du coup, là, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, de petits films. Donc là, j'ai vraiment, pour le coup, je me suis mis à la technique. Donc c'était toujours en animation traditionnelle, sans rotoscopie. Je me suis mis à en faire beaucoup, à comprendre des demandes clients, gérer des budgets. Donc ça, c'était quand même très formateur.
Pour le coup, c'était ta formation professionnalisante, là.
Voilà,
c'est ça.
Exactement. Mmh. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et à un moment, en fait, c'est quand même dur pour des gens qui sont artistes de se retrouver à faire de la commande exclusivement. Et du coup, les boss ont proposé qu'on fasse des clips. Et du coup, on a fait un... ils connaissaient ce groupe Gush qui cherchait un clip. Et du coup, on a fait un appel à projet à l'intérieur de la boîte en proposant chacun des pistes. Moi, j'ai été retenue et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, j'ai envie de les filmer, de les redessiner.
Ça t'est venu comment?
Je sais pas. Franchement...
Ah ouais?
C'est... Je sais pas, j'ai commencé avec des images d'eux et en cherchant le projet, je me suis mis à les redessiner. Et c'est là où j'ai commencé à faire ça, quoi. Et du coup, après, on a fait un tournage trop chouette.
Je vous mettrai un lien pour aller voir le clip.
Il y a un
making-of
aussi, je crois. Ouais, où on voit vraiment comment c'est fait. Je les ai mis sur une espèce de tournette comme on fait en nu, quoi. Ils étaient assis, je faisais tourner. Enfin, voilà. Et après, il y avait de l'animation 2D aussi mélangée. Par exemple, il y a des moments, il y a ce qu'on appelle des morphings, où leur tête se transforme en tête d'animal. Donc là, il y avait un mélange aussi avec de l'animation 2D. Voilà comment j'ai fait ma première expérience de rotoscopie.
Et tu découvres ce...
Enfin, non, je crois que j'avais fait un autre clip aussi où j'avais fait de la rotoscopie.
Ok.
Mais disons que là, je l'ai faite de manière plus... Peut-être un peu plus pro.
Ouais.
Enfin, vraiment concentrée là-dessus, quoi.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de redessiner des gens que tu viens de filmer?
Bah, je trouve que le fait qu'il y ait des gens qui jouent, ça amène vachement d'humanité et je suis toujours aussi surprise. Donc il y a ça et puis j'aime bien le côté tournage en fait. Je trouve ça, alors que l'animation c'est un truc un peu solitaire, méditatif, très long. Là il y a un truc d'émulation de groupe où on trouve des choses et puis en fait là pour celui-là j'avais vraiment envie de les représenter parce qu'ils représentaient l'image de leur musique. Du coup c'était une manière de leur faire comme des avatars.
Trop cool. Ah vraiment. 3 ans plus tard, donc tu quittes cette boîte, c'est ça?
Ouais.
Et tu te lances à ton compte?
Alors, c'était un peu houleux, la sortie de cette boîte.
Okay.
Mais j'ai réussi à en partir et à avoir le chômage.
Okay.
Et je t'entendais dire dans ton podcast que quand on acceptera que Pôle emploi est le premier incubateur de start-up, c'est vrai que moi, sans le chômage, et c'est pour ça que je me suis battue pour l'avoir et que ça s'est mal terminé, mais je savais que j'avais besoin de ça pour justement, un peu comme dans un système d'intermittence. Sauf que j'avais pas encore des heures, mais c'est maintenant ce que je fais. J'avais besoin de temps pour faire mes projets personnels. En fait, le fait d'avoir fait énormément de projets de commandes, j'avais super envie. Et d'avoir fait ce clip, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Enfin, j'y allais au bureau à 6 heures du matin. Je faisais dormir des stagiaires chez moi tellement on a bossé là-dessus. Parce qu'on faisait ça en faisant des commandes. C'était vraiment.
Ouais,
me donner quelques heures, mais je l'ai fait vraiment sur mon temps libre. Et du coup, je me suis dit, OK, en fait, là, j'ai retrouvé un peu... Parce qu'une fois qu'on rentre dans une boîte, surtout dans nos métiers, on sait que c'est dur. Enfin, depuis que je suis petite, on m'a dit que ça allait être dur, que c'est des métiers difficiles, enfin je le sais. Et du coup, d'être dans cette espèce de confort, de CDI avec des horaires et tout, c'était dur de s'extraire de cette bulle. Et il m'a fallu ce clip-là pour me dire, ok, mais en fait, ça me rend tellement heureuse de faire mes propres projets, mes propres histoires. Et finalement, j'ai réussi, j'ai eu une équipe avec moi. Enfin, je me suis rendu compte que j'en étais capable. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ok, en fait, je veux partir pour faire mes trucs, mes histoires. Et
ça, j'imagine à quel point c'est un saut.
C'était
dans
dur.
J'allais dire un saut dans le vide de ouf, quoi.
Ouais, ouais, j'ai fait un petit burn-out. C'était très dur comme décision à prendre.
T'as fait un burn-out après? Avant?
Pendant.
Pendant.
Non, ça, quand je te dis ça, c'est mal fini. Ça, c'est mal fini. Ouais, le début était assez idyllique, la fin était très.
Dur. Ouais. Parce que t'avais besoin de quitter, justement, peut-être, non?
Oui, et puis qu'on voulait pas me laisser partir, ouais. Parce que j'étais un bon élément, apparemment. Ouais. Mais en fait. Enfin bon.
Ouais, c'est...
De toute façon, il ne faut pas mettre un artiste dans une boîte avec des horaires et demander à ses patrons quand on peut partir. Enfin, ce n'est pas mon, c'est pas mon état d'esprit.
Oui,
quoi.
C'est
enfin,
ça.
Enfin, un moment où on doit partir. Quoi. Mais bon, en vrai, ça m'a formé, mais c'est vrai que j'ai dû me battre pour faire ça. Quoi. C'était un moment pas marrant. Mais...
J'ai appris en tant qu'employeur à savoir laisser partir les gens, mais c'est dur hein, parce que tu as la sensation aussi en tant que patron d'avoir investi, tu vois, du temps, de l'argent sur des gens que tu as contribué à former. Enfin, tu vois, tu disais que tu as appris de la technique et tout. Et je sais que ça nécessite un vrai lâcher prise, tu vois, de venir dire non, c'est cool, en fait, c'était ton moment. Et en fait, maintenant, il faut partir, vol de tes propres ailes. Mais c'est.
J'entends, et c'est ça qui était dur, c'est qu'on était quand même presque amis aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que tout ça, je l'ai encore beaucoup sur le cœur, je me dis. C'est dur d'avoir une envie propre, de se dire, mais je vais pas à la concurrence, je veux faire mes trucs. Et en fait, c'est comme ça, et vous pourrez pas m'en empêcher de toute façon,
oui.
Collaborer, quoi. C'est dommage.
Ouais.
Parce que du coup, je pars avec beaucoup d'amertume, alors qu'en fait... Mais je comprends le truc d'investissement.
Enfin, c'est pas ça, non. C'est juste pour expliquer, quoi. Et moi, je vois vraiment le chemin que j'ai parcouru chez Mademoiselle pendant 15 ans à... comprendre qu'en fait tu pouvais pas retenir les gens malgré eux, quoi, tu vois. Et je sais qu'au début je pouvais appuyer sur des peurs qui pouvaient, enfin c'était foireux, quoi, tu vois.
Oui,
tu retrouveras jamais mieux ailleurs. C'est vraiment horrible comme façon de faire, mais je crois que c'était ma peur qui s'exprimait avant tout, quoi.
Ouais, je comprends, mais c'est surtout que moi je me suis beaucoup investi là-bas aussi.
Bah,
donc
oui,
c'est donnant, enfin
bien
c'est des,
sûr non, mais
c'est
j'imagine
des, c'est des, je veux dire, c'est des, ouais, c'est des collaborations, quoi, qui...
Ok, donc un peu dur ta sortie, mais en attendant, tu fais quand même le grand saut. Tu réussis à avoir le chômage.
Je réussis à avoir le chômage.
Bravo.
Merci.
Et donc, ça te permet de pouvoir te dire, ok, je vais bosser sur mes propres projets.
Bah, c'est là où j'ai commencé à écrire mon film, donc c'était hyper nécessaire. J'ai fait un autre clip. Du coup, j'étais beaucoup sur les clips à ce moment-là parce que je trouvais que c'était un formidable... laboratoire de technique, quoi, où t'es sur une durée donnée avec déjà une histoire qui sont les paroles, la rythmique et tout ça. Et
que tu n'as plus besoin, entre guillemets, que de illustrer, quoi.
Voilà. Et ça, c'est quand même un bon support. Tu sais que c'est pas non plus trop long, même si c'est long, la rotoscopie, mais je veux dire de me dire, ok, j'ai 3 minutes pour tester un style, une histoire et tout ça. Et du coup, j'ai fait un clip qui s'appelle All I Knew de Fastlane, qui est un duo de rappeurs américains et de 2 DJ français, enfin soundmakers, je ne sais pas comment dire, et qui se sont alliés et que j'ai rencontrés via... Enfin, c'est toujours les rencontres, c'est toujours via des amis ou via mon frère qui organisait un festival de musique et qui me les a fait rencontrer. Et eux avaient un petit budget, mais je leur ai dit, bah, moi j'adore ce que vous faites, mais du coup j'aimerais avoir carte blanche. Et sur validation, évidemment, d'un style, et que j'allais faire un clip de rap, et enfin, évidemment, j'allais coller à l'esthétique. Et c'est là où j'ai commencé, du coup, j'avais encore envie de faire de la rotoscopie, mais cette fois-ci, j'avais un peu envie de revenir au papier, au quelque chose de plus sensible, quoi. J'en avais marre d'être. En fait, je pense que les 3 années sur ordi, dans la boîte, puis le clip en rotoscopie sur ordinateur, je me suis dit, j'aimerais bien plus être sur un ordinateur. Et revenir au dessin primitif presque de
ta
moi,
maman,
mon crayon.
De ta maman qui te pose la boîte de crayon, quoi, c'est ça.
Voilà. Et du coup, j'ai fait une technique un peu au début. Maintenant, j'ai beaucoup évolué dans ma technique. C'est moins artisanal, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, on allait filmer les rappeurs américains dans les rues de Paris. Enfin, c'était trop marrant, quoi.
Et après, tu les dessinais sur papier.
Voilà.
Donc
en fait, moi, j'ai un système où j'imprime ce que je filme.
Ouais.
Et après, comme je décalque avec une table lumineuse où je vois en transparence, et donc là, je réinterprète le dessin, quoi. Et c'est là où j'ai un peu trouvé ce truc de laisser beaucoup de blanc, de la vibration du trait, du crayon de couleur. Enfin, c'était vraiment les prémices de la technique de mon ouais,
je mettrai la bande-annonce hein, d'été 96 et je mettrai aussi ce clip. Il est
sur YouTube, ouais, les deux avec Kush aussi.
Oui. Je mettrai tout hein, si vous voulez aller regarder. Effectivement, c'est très... Enfin, on va en reparler, mais dans l'été 96, je trouve vraiment qu'il y a un truc où tu passes de... C'est tout blanc, en fait, autour de tes persos. C'est hyper touchant de cette parce qu'il n'y a que les persos. Puis après, dans le plan d'après, il y a un vrai décor, quoi. C'est trop, trop bien. Et effectivement, le trait bouge. Ouais. Ça, le trait bouge, quoi. Ça marche à merveille, quoi. C'est trop, trop cool. Mais même tes typos bougent.
Ouais, tout bouge. Bah, une fois qu'on a fait tant de dessins, on va pas s'arrêter aux typos.
Faut tout faire bouger, quoi.
C'est générique, mais... Parce que le générique ça change tout le temps, c'est insupportable. Tu sais, t'as fini et puis il faut rajouter le nom de machin, ouais. C'est pas le bon logo. Et mes producteurs étaient ah non, mais désolé de te faire redessiner. J'étais ah non, mais fou. Enfin, après avoir fait ce film, on peut redessiner 10 fois le générique, c'est pas grave.
Mais donc, ouais, tu te lances aussi là-dedans dans la technique sur le papier qui finira par devenir la technique de bon, ta technique en fait. Hein, globalement, j'imagine que tu vas plus faire que ça de ta life, non maintenant.
Bah pour le moment, j'en ai pas marre, donc ouais, tant que j'en ai pas marre... J'étais avec des scolaires qui me disaient « Mais vous avez changé et tout ?» J'étais « Ah non, là, je trouve un truc... » J'ai passé déjà tellement de temps à chercher une technique...
La technique, la fameuse.
Voilà, que là, je vais m'en tenir parce que j'ai l'impression que maintenant, je peux aller... Enfin, toutes les erreurs que j'ai faites sur mon premier tournage, je les ferai plus. Ouais. Toutes les étapes en trop. Donc là, j'ai un peu envie de... Maintenant que j'ai mis un truc au point, d'en profiter.
Comment t'as... C'est quoi, par exemple, les trucs... Peut-être que c'est ultra technique, hein, j'en sais foutre rien, mais tu vas me dire. C'est quoi les trucs que t'as trouvé entre-temps, entre le moment où t'as fait ton premier clip avec Fastlane et finalement la création d'été 96 ?
Bah, alors là, c'est très technique, mais déjà avant, je scotchais les feuilles ensemble. Maintenant, j'ai fait un système où je les... Donc en animation, c'est vraiment un truc où on troue les images et on met ce qu'on appelle une pegbar, qui est une barre de métal qui relie. Donc maintenant, j'ai trouvé un système pour imprimer sur des images déjà trouées sans faire des bourrages d'imprimante. Enfin, c'est très artisanal. Donc ça va plus vite.
Donc ce que tu fais, c'est que tu, avec ta table lumineuse, c'est ça, tu fais comme on voit parfois dans certains making-of.
Alors moi, je flippe pas parce que j'anime pas, enfin parce que je redessine, mais du coup, fait que l'image, elle est toujours bien calée parce que si, quand je scotchais, il y avait toujours un mini décalage. Là, c'est plus... je me suis professionnalisée dans ma technique, quoi, mais vu que je l'ai inventé pour moi.
C'est ça, c'est que du...
Enfin, j'imagine que ça existe. Enfin, tout le monde, plein de monde fait de la rotoscopie, mais moi, vu que c'est à la main, j'ai dû trouver un peu des systèmes, quoi.
C'est du fait maison, quoi.
Vraiment fait maison, ouais. Et ce que j'ai appris aussi, c'est à déléguer. Et ça, c'était dur.
C'est-à-dire?
J'ai pris des gens pour m'aider à rotoscoper aussi, hein, en fait. Et je suis tombée sur des gens très forts. Enfin, c'est aussi ça d'être... quand on passe, enfin parce qu'il y en a qui sont réalisateurs qui m'ont aidé, mais quand on passe du côté technique, c'est d'essayer. Enfin, moi je l'ai fait aussi en rotoscopie pour une amie, et en fait il faut prendre le trait de l'autre, et c'est pas facile. Enfin, c'est vraiment un truc qui est propre à l'animation, de savoir s'oublier et redessiner le trait, la main, le geste de quelqu'un d'autre, quoi. Et franchement, je suis trop contente parce qu'il y a des plans dans mon film où j'oublie que c'est pas moi qui les ai faits.
Ah yes.
Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
De déléguer
De déléguer, j'ai mis longtemps. Parce que déjà, il fallait que je sois sûre de ma technique avant. Et j'ai mis longtemps à déléguer, mais maintenant, je sais déléguer. Et ça, c'est une super chose.
Ouais. Pourquoi t'as mis longtemps? Parce que t'avais la sensation que c'était à toi de le faire, c'est ça? Ou que ça t'appartenait?
Ouais. Même faire scanner des images, je suis pas capable de le faire. En fait, c'est tellement laborieux que j'ai pas envie de faire scanner à des stagiaires. Ils l'ont fait un petit peu, mais je voulais qu'ils fassent surtout des plans. Au final, j'avais dit que ça serait un peu du coloriage pour des grosses masses de couleurs à faire. Et puis finalement, j'ai des stagiaires qui ont fait carrément des plans dans le film. Donc ça, j'en suis super contente. Mais c'est vrai que comme c'est laborieux, j'ai du mal à me dire que je vais imposer ça à d'autres gens, quoi.
Pas faire le garder pour toi.
Non, mais enfin, je me dis c'est mon truc, donc c'est pas grave si j'ai du mal, quoi. Mais
tu te rends bien compte que t'as sans doute plus de valeur ajoutée à apporter à peut-être un truc moins entre guillemets bête, pardon, à faire, quoi.
Non, mais j'y travaille. Mais là, je vais le faire de plus en plus. Non, et puis il fallait que je sois vraiment sûre de ma technique. Enfin, à la fin, je faisais quand même des notes très précises de par quelle couleur on commence pour pas faire baver sur la feuille. Enfin,
ah oui.
Donc, en fait, j'ai eu un besoin de commencer, de faire beaucoup de plans, moi, toute seule, pour avoir un peu le mode d'emploi de comment on dessine, quoi.
Ok. Tu me disais tout à l'heure que pendant ce temps-là aussi, tu étais en train de commencer à écrire ce film. D'où te vient... On va parler des T96. D'où te vient ton, cette envie de mettre en scène des vacances à la mer?
À la mer.
En Bretagne, si je ne me trompe
Bretagne,
pas.
En Bretagne, Finistère Nord. en fait, tout est parti de mon père qui a récupéré dans sa... Il a retrouvé dans sa cave un carton avec plein de... de mini DV, enfin de cassettes de caméscope. Donc le caméscope, c'est ce qu'on utilisait avant les téléphones pour filmer. Et il s'est dit qu'il fallait les numériser parce qu'on avait peur de les... Enfin, c'est un moment où on se disait tout va disparaître. Il faut absolument les numériser parce que c'est des pépites qui doivent être sur ces bandes quand on ne savait plus ce qu'il y avait. Et il l'a fait. Et là, on a regardé ça avec ma soeur. Enfin, on était hyper émus parce que c'est des... En plus, c'est très cut parce qu'en fait, c'était des moments où ça coûtait cher. Enfin, le caméscope, c'était vraiment... Avoir un caméscope, c'était vraiment la technologie, quoi. Du coup, c'était super précieux. D'ailleurs, sur plein de plans, on nous entend genre « Arrêtez de toucher à la caméra te rapproche pas, mais pas de sable. » Enfin, il y avait un truc, c'était très, très précieux.
Bien sûr.
Et le matériel filmé était très précieux. Donc, on se fait des bons dans le temps qui sont assez, assez drôles, quoi. C'est vraiment des petits... des petits morceaux quoi, de vie. Et donc, ça m'a d'abord beaucoup émue. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je fasse un truc avec ça. Je ne savais pas quoi. Et au début, je me suis dit que j'allais en faire un documentaire, un docu où il y aurait des... Où il y aurait... En fait, je voulais faire un documentaire sur le souvenir. Et je me disais, est-ce que ça ne serait pas intéressant? Enfin, parce qu'un souvenir, c'est super propre à chacun. Chacun retient des choses d'un moment. Et je me disais, pour avoir le souvenir en entier, il faudrait que chacun dise... ce dont il se souvenait de ce moment, donc peut-être en parlant sur les images. Et là, Ninon Chapuis, du coup, ma productrice et amie depuis le CM2, est arrivée...
Mais alors, tu voulais en faire un documentaire filmé de ce fait-là, de
enfin,
cinéma, quoi.
Monter les archives ensemble et parler dessus. Enfin, je ne pensais même pas en faire un vrai film. Enfin, c'était un truc que je voulais faire, mais comme un projet presque perso. Et là, ma productrice Ninon Chapuis, enfin, mon amie est arrivée, je lui ai montré les trucs, et elle m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai envie de... d'accompagner des réals et si t'as envie on fait ça ensemble en fait on peut en parler et puis
elle... C'était la première fois aussi elle qu'elle produisait un dessin animé de ce genre ou...
Elle a jamais produit, je suis le seul dessin animé en fait. Elle vient de la Fémis, elle vient du live.
Ah yes,
donc
okay.
En fait c'était vraiment parce qu'on était amis et que moi je lui parlais d'un documentaire qu'elle est venue. Donc en fait tout ça est sur un malentendu. Non, pas sur un malentendu, mais sur ce truc de... En plus, elle connaît très bien ma famille, donc elle, ses archives, elle lui parlait beaucoup
bien
à
sûr.
Elle. On partage ce truc de vraiment de l'intime, de la famille, des moments fondateurs, des relations de la famille. Enfin, tout ça, ça nous parlait beaucoup. Et du coup, petit à petit, on a suivi une discussion. Donc, ce qui était chouette, c'est que grâce au chômage et à mes projets à côté, j'avais pas de stress là-dessus. C'est ce qui m'a permis, je pense, toute la liberté de prendre le temps. Parce que j'ai mis longtemps à arriver en me disant, en fait, petit à petit, j'ai enlevé l'image d'archives et je me suis concentrée sur de l'animation, quoi.
Au départ, tu voulais faire un truc mix, c'est ça?
À un moment, je me suis dit, je vais rajouter de l'animation, parce que c'est quand même de là où je viens, j'aime dessiner. Et puis, petit à petit, en fait, c'est devenu un film d'animation de fiction, en poussant un peu toutes les histoires qu'il y avait dans ces cassettes. Donc, en fait, sur ces images, on voyait tout le temps une île qui s'appelle l'île Calotte, qui est dans le Finistère Nord. Et qui, pour moi, était un endroit de joie extrême. Enfin, je m'en souvenais vraiment comme un moment de liberté pure, enfant, parce qu'on allait souvent faire des pique-niques là-bas avec notre famille et des amis. Enfin, c'était très joyeux, il y avait plein d'enfants. Et pour nous, c'était un peu la liberté, parce que nos parents, ils pique-niquaient, ils étaient détendus, c'était l'été. Nous, on allait faire des explorations, des aventures. Et en même temps, il y avait ce double truc de ressenti par rapport à cette île, qui est à la fois très joyeuse et à la fois où il y avait eu pas mal de drames, d'images marquantes pour moi enfant. En fait, l'île est reliée au continent par une route submersible avec les marées. Et en fait, il y a plein de gens qui essayent de revenir en se disant qu'ils ont complètement le temps parce qu'il y a très peu d'eau sur la route. Sauf qu'en fait, ils s'embourbent. Et donc, moi, je me souviens d'images de voitures prises dans l'eau qu'on avait vues avec mes parents. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi tout cet imaginaire-là. Et du coup, de là est partie plus une envie de fiction. Avec un peu ces archives comme fantômes bienveillants quoi, qui sont là à côté de très inspirants sur le stylisme, les looks, ce qu'on faisait. Enfin, ça a vraiment.
Ah bah ça fleure bon les années 90,
ouais,
hein, ton film.
Ça,
on est vraiment dans. Ça sent les 90s quoi.
Ouais.
Et t'écris, tu co-écris le scénario avec ton père.
Oui.
C'est ça.
Alors du coup, bah, c'est ça qui, enfin, tout est très en fait finalement familial, amical dans mon travail. Je me rends compte, c'est que j'ai demandé de l'aide à mon père. Moi, j'ai jamais écrit de fiction. Et donc lui est réalisateur et a l'habitude d'écrire. Et en fait, finalement, ça boucle aussi avec l'idée de raconter un souvenir commun. Mmh. Parce que lui, il y a mis beaucoup de lui. Il se souvient de choses que lui a vues adulte, alors que moi, c'était mon ressenti d'enfant. Donc l'engueulade en toile de fond des parents, ouais. C'est complètement lui. C'est aussi son ressenti de cette période. Enfin, et du coup, on a coécrit ensemble. C'était super joyeux. Moi, je trouve ça trop... Enfin, dans mes projets, je coécris. Je trouve ça très riche. En fait, je trouve que quand on est plusieurs, c'est plus riche, quoi. C'est... On rebondit, enfin d'être tout seul. Enfin, je l'ai fait beaucoup d'écrire dans un café, mais au bout d'un moment, je bloque et dès que quelqu'un arrive, ça réinjecte des idées. On en parle et on joue les scènes. Enfin, tout est plus.
C'était cool de bosser avec ton père. C'est la première fois que vous viviez ça, ouais. Vous faisiez un projet ensemble. Non
ouais, bah c'est marrant parce qu'on s'était toujours dit qu'on aurait envie de faire quelque chose et je pense que et lui et moi, on était super contents de faire ça. Bon après, ça reste mon père, donc c'est il y a un comment dire un... Il y a une hiérarchie. Enfin, ça reste mon boss. mais du coup, je devais lui rappeler, c'est mon film et ça. Ouais. Non, il était super bienveillant. Mmh. C'était une chance inouïe de faire ça ensemble. Enfin, j'en suis super heureuse.
Tu m'étonnes.
Mais non, et puis du coup, je devais encore plus m'affirmer sur les choix.
Que tu voulais.
Parce qu'en plus, lui, il a fait ça toute sa vie. Donc, il fallait aussi que je m'affirme.
Ça t'a fait du bien ?
Ouais. non, c'était...
J'imagine à quel point, en plus, c'est d'autant moins simple de s'affirmer face à son père, quoi. Parce que c'est finalement aussi la petite fille, la petite Mathilde, quoi, qui est en train de s'affirmer face à son daron, quoi.
En fait, du coup, j'ai pu m'affirmer via l'animation.
Ouais.
Beaucoup plus. Lui, il a vraiment été là pour m'aider dans le scénario, faire une trame avec des arcs narratifs, avec des... Enfin, il a vraiment... pris mon idée, il m'a aidé à en faire quelque chose de
bah, il a structuré quoi.
Ouais, il a vraiment structuré et puis il a écrit les dialogues qui sont hyper savoureux, moi je les adore. Et non, c'était une expérience, enfin, c'est incroyable, je suis trop contente.
Ah, c'est
puis
cool.
Vraiment de boucler sur ce truc de qu'est-ce qu'un souvenir, comment on le raconte ensemble. En fait, l'intention principale, première et là finalement,
fonctionne,
et,
quoi.
Ça, c'est génial. Ouais.
Et donc, tu t'es retrouvé pendant... Combien de temps ? Je ne sais plus. Donc avec toute une équipe, hein, tous les gens sont des vrais acteurs, les gens qui sont dans ce film, quoi.
Ouais.
C'est fou.
Enfin, c'est pas des acteurs. Enfin, les adultes sont des acteurs et les enfants. On a fait des castings d'enfants, donc ça c'était trop sympa. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a pris une fratrie. En fait, il y a le petit garçon Paul, enfin Kaori, qui s'appelle Kaori Moïse, qui est l'acteur principal. Donc lui, il était indépendant, mais en fait, les trois autres enfants, c'était une fratrie. Enfin, c'était des cousins, un frère, une sœur et une cousine. Et du coup, l'énergie fonctionnait bien parce qu'en fait, ils se connaissaient super bien. Et finalement, ils jouaient un peu leur propre rôle parce qu'eux étaient très soudés. Et puis, il y a le petit garçon qui est déjà un peu plus grand, qui est un peu en retrait. Et eux, en fait, étaient du coin. Donc en fait, on allait faire les repérages avec eux. Et ils sautaient partout sur les cailloux. Ils connaissaient mieux l'île que moi. Ils m'ont dit, c'est pas normal qu'ils dorment sur l'île parce qu'en fait, il y a des maisons. Donc ils auraient pu aller se réfugier dans une maison. Enfin... Du coup, j'ai trouvé ça trop génial de faire rejouer des enfants du coin cette histoire-là, quoi.
Trop bien. Mmh. Donc, c'était un vrai tournage avec toute une équipe, etc. On revient sur l'équipe, quoi.
On revient sur l'équipe. Alors, le tournage, il était quand même super léger. On n'avait pas de script. Enfin, il y avait vraiment le strict minimum, chef-op, prise de son, les acteurs, ma productrice, mon mec qui nous a beaucoup aidés. Enfin, c'était encore une fois très... très, très, très débrouille et copain, mais avec des financements. Mais je veux dire, là, c'était la partie. En fait, pour moi, c'est une matière, mais c'est pas, ça doit pas être beau, ça doit pas être mon chef-op qui. Enfin, ma technique, j'ai dû l'expliquer plein de fois parce que les gens avaient du mal à se la mettre dans la tête parce que c'est un peu particulier, parce qu'on fait de l'image qui va servir de base, mais qui sera pas vue.
T'es pas obligé d'avoir la meilleure photo possible.
Voilà.
Quoi.
Ouais. Donc, en fait, le chef-op me disait, ah, c'est bien, ce plan-là est bien, mais il y a une poubelle. Et je disais, mais je vais pas la dessiner, c'est pas grave. Et ah oui, c'est vrai que t'effaces tout. Enfin, c'était dur pour tout le monde de se mettre dans les conditions.
Je l'enlèverai sur Photoshop. Voilà. Enfin, pas du tout pour le coup.
Non, pas sur Photoshop, mais je la dessinerai pas, quoi.
Bah ouais.
Mais du coup, c'était drôle parce qu'il mettait les perches dans le champ. Enfin, tout le monde a revu sa manière de.
Ah,
mais c'était un tournage hyper joyeux, très familial, je dirais. Enfin, tout le monde a mis beaucoup d'énergie. Je les ai quand même fait se mettre dans la flotte. Il faisait très froid. L'eau était très froide. Enfin, et tout le monde a mis vraiment du sien et j'ai trouvé ça trop joyeux.
Et une fois que ce tournage est réalisé, alors le vrai travail commence finalement. Parce que. Attends, j'ai lu que vous êtes. Donc en plus, comme tu as choisi de faire les choses simplement, vous avez travaillé à distance avec justement avec des animateurs qui, eux, travaillaient, si je ne me trompe pas, en Bretagne, pour le coup. Mm. Toi, tu étais à Paris. Mm. Et donc, vous envoyiez des cartons de dessins, quoi.
Ouais, ça, c'était...
Mais quel délire.
Ouais. Ben, en fait, quand on a travaillé, comme on a eu un financement de la région Bretagne, ça fait qu'il faut travailler avec des gens du coin, ce qui est extraordinaire. Enfin, c'est une super manière de faire vivre les régions, ces aides de région. Et du coup, j'ai travaillé avec des animateurs à Paris, mais aussi bretons. Donc, c'est eux dont je te disais que je vois même pas leur... Enfin, qui ont très bien bossé, alors qu'on était à distance. Et vraiment, je vois pas quand c'est eux qui ont fait les plans. Donc, j'en suis vraiment trop contente de cette collaboration. Et donc, c'est mon producteur qui, dans sa petite voiture, faisait déjà les allers-retours entre Paris et la Bretagne. Lui, il est basé entre Paris et la Bretagne. Okay. Et donc, il transportait des cartons où il y avait donc toutes les images imprimées. Et moi, je faisais le premier dessin avec mes indications, bien appuyé fort. Attention, on met le noir en dernier pour pas que ça bave. Les yeux, on les dessine pas sur ce plan, mais à tel frame, ils apparaissent. Enfin... Un truc très... Enfin, c'est hyper artisanal comme système. Et du coup, on se passait les feuilles, il m'envoyait des photos, je disais appuie plus, attention à gauche, son œil. Enfin,
ah ouais.
C'était très... Ouais, j'espère avoir mon équipe avec moi le prochain film, parce que c'est vrai que c'était folklore. Mais ça a fonctionné. Hein.
Mais ça... Oui, c'est ça. Et surtout, ça prouve à quel point ton système qui... On en parlait, plus sur ordinateur, vraiment, de revenir au papier, en fait, finit par fonctionner aussi, quoi.
Ouais.
Mais les contraintes... Par rapport à, tu vois, 2023, je me dis...
Oui, tu pourrais tout faire avec des brushes sur TV Paint. Mais non.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, avec le recul, tu vois, de faire tout ce film sur du papier? Par rapport au fait que si tu l'avais fait, je sais pas, tu vois, sur... est-ce que, en tant que spectateur, on aurait vu la différence?
Oui.
Ok.
Bah, je me
rends pas compte.
Je
te crois, hein, si tu me le dis, enfin, mais je me rends pas compte.
Je trouve qu'ils font des brushes extraordinaires. Par exemple, je sais pas si t'as vu Ernest et Célestine.
Si. Oui.
Tu vois, alors je crois que leurs décors, si je dis pas de bêtises, sont vraiment en aquarelle. Et les personnages sont faits avec des brushes. Ou alors il y a un mix média et tout. Je trouve qu'ils font des trucs extraordinaires. Les hirondelles de Kaboul aussi, je crois. Okay.
Tu veux dire que c'est un mix entre du papier et du numérique pour le coup?
Je crois, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Mais en tout cas, ils ont réussi à développer des brushes extraordinaires. Mmh. Et effectivement, tu peux y croire et tout ça, mais moi, de toute façon, en fait, alors d'abord, ok, c'est pour le spectateur, je trouve ça beaucoup plus joli et vivant, et je pense qu'on voit que c'est du crayon de couleur, mais de toute façon, c'est avant tout pour moi, c'est parce qu'en fait, c'est pour mon... Enfin, à la base, je fais ça parce que... Enfin, ce qui est génial dans ce métier, c'est que je fais ça parce que moi, ça me fait plaisir. Mmh. Et en fait, c'est vraiment que j'avais plus envie d'être sur des ordinateurs, quoi. J'avais envie de dessiner vraiment de... Enfin, c'est pas du tout pareil de dessiner avec un stylet sur un... C'est pas la même sensation,
j'imagine,
quoi, de tailler ses crayons, que ça accroche, d'appuyer très fort, de faire des mélanges de couleurs. Mais ouais, non, c'est vraiment pour mon plaisir. Et après, je pense quand même que les gens me le disent, les spectateurs me disent qu'ils trouvent ça beau, la vibration, que c'est incarné, que c'est plus sensible. Enfin, d'ailleurs, quand je le regarde sur grand écran au ciné, on voit parfois, il y a des petits bouts de gomme qui se baladent. Il y a même un cheveu à un moment, si vous faites attention, parce que j'ai mal nettoyé mon scanner. Enfin... Je veux dire, ça, c'est vivant, quoi. Et puis, ça refait peut-être ce truc un peu de la pellicule aussi, de cette aspérité. C'est comme si je tournais en pellicule, en fait. Je pense, dans ma pratique, c'est à peu près la même volonté, quoi, d'être vers quelque chose de plus artisanal et incarné.
Et l'envie d'amener ce film au César, ça vient d'où?
Ah, c'est pas moi qui... Enfin, Moi, je savais même pas qu'on avait... Enfin, je l'ai appris, je savais même pas qu'on avait déposé au César. C'est Miou, la boîte de prod et distrib. Donc, Miou, il me distribue. Et c'est eux qui s'occupent de tous les envois et qui ont envoyé au César.
Ah ouais?
Ouais, en fait, donc, ils font un boulot monstre d'envoyer à tous les festivals.
Ils t'ont inscrit sans te le dire?
Enfin, je veux dire, on avait un plan... J'aurais très bien pu savoir que j'étais inscrite, mais je veux dire, j'avais même pas pensé que c'était à ce moment-là, parce que je suis pas le calendrier des inscriptions. Et en fait, c'est quand j'ai su que j'étais sélectionnée.
Mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Non, je suis tellement contente.
Et donc, ouais, bah, tu finis par gagner ce prix. Je me demandais un petit peu, qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte? Est-ce que ça t'ouvre des portes?
Bah justement, là, c'est encore en cours, donc c'est pas, on n'a rien signé, mais par exemple, du coup, ce qu'on disait avec Les Femmes s'animent, donc j'ai rencontré du coup des éditeurs qui s'appellent Didier Jeunesse, et on a pour projet de faire un... Enfin, c'est en pourparler encore, mais on a pour projet de faire un livre de ce film-là. Okay. Et en fait, c'est la première fois que je vais à un rendez-vous et que les gens m'attendent et sont partants. Enfin, je l'ai fait mille fois d'aller voir des éditeurs, des galeries, des trucs, en disant, bah voilà, j'ai fait ça. Et c'est vrai que là, c'est plus une relation qui est un peu inversée, où en fait, on sait qui je suis et on a envie de travailler avec moi. Donc, c'est...
T'as
c'est
fait quoi?
Assez agréable.
Oui.
Bah, c'est génial. Enfin, c'est... Là, je me suis dit, ah, mais c'est super. En fait, ça peut être dans ce sens-là. Les gens peuvent. Et du coup, j'ai des gens qui me contactent pour faire des projets. J'ai l'impression que c'est plus simple pour les. Là, je suis en train de faire. Enfin, j'ai fini l'écriture d'un prochain film et il est en train de passer des commissions. J'ai l'impression que c'est un peu plus.
Des commissions, c'est pour recevoir des. Pour recevoir des financements, c'est ça?
Voilà, ouais, le CNC, les régions, comme on en parlait. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus simple d'avoir. D'avoir des financements. En tout cas, je suis identifiée.
Sur ton CV, c'est pas mal, quoi.
Ouais. Et donc, je suis identifiée et j'espère que ça permet de rendre les prochains projets plus simples.
Oui. Comment ce prochain projet pourrait être plus simple, par exemple, pour toi?
Bah, en ayant des financements.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Mais je veux dire, en termes de réalisation, il y a des trucs que tu aimerais injecter, amener dedans, qui seraient peut-être permis par... que vous n'avez pas pu faire par rapport à été 96.
Non, je pense que ça serait plus sur le processus. Il y a des étapes que je vais enlever, il y a des étapes que je vais rajouter, m'entourer peut-être de plus, prendre une script par exemple.
Ouais.
Je dis une parce que c'est très souvent des femmes. Mais ouais.
Une script, à quoi, tu peux expliquer à quoi ça sert sur un tournage?
Une script, c'est quelqu'un qui va s'assurer qu'il y a une bonne continuité dans les plans, parce que comme on filme pas le film dans l'ordre, c'est un peu un micmac de se souvenir comment la personne était habillée, si... Enfin, un truc tout bête, mais quand il y a des faux raccords, par exemple, de quelqu'un qui fume, parce que la cigarette, elle va être très petite, puis grande. Enfin, c'est ce genre de détail qui fait qu'il y a une cohérence dans comment les gens étaient habillés, quels étaient les accessoires, comment ils étaient positionnés. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais moi, c'est ma vision que j'ai de la script. Je n'ai jamais travaillé avec une script, mais...
Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler?
Oui. Non, mais en fait, en relisant un peu tout le parcours, là, comme on s'en parle et tout ça, je pense que... Enfin, j'ai pas du tout de conseils à donner, mais c'est un... C'est un... non, mais c'est cette chose d'être entouré par des gens bienveillants. Enfin, de pas aller vers les plus grosses boîtes ou les... Par exemple, moi... Enfin, j'aurais pu travailler avec des grosses boîtes de production et en fait, c'est l'amitié qui a primé et je trouve que d'être entouré... Alors... On peut pas toujours travailler avec ses amis, hein. Parfois ça marche pas, je dis pas que ça marche, mais en fait je trouve que dans ces métiers artistiques, ce qui est extraordinaire, et je pense que c'est comme pour toi aussi, c'est d'être entouré de gens, enfin on passe quand même tellement de temps au travail que d'être entouré de gens qu'on aime, qu'on trouve talentueux, pour qui on a du respect, qu'on sent qu'ils sont bienveillants, qu'ils ont envie d'aller loin, je trouve que c'est vraiment le truc que je retiens, qu'en fait on peut, enfin c'est quand même fou d'en être... Enfin, ce qui était hyper émouvant quand on est à la cérémonie, c'est qu'il y avait mon père qui était derrière moi, il y avait mon mec, il y avait un copain d'enfance qu'on avait invité, des amis d'enfance, il y avait ma productrice qui est mon amie d'enfance, mes autres producteurs qui sont devenus des amis. Et en fait, du coup, je me disais, ah, mais c'est fou comme cette soirée, elle était extraordinaire de joie et de se dire, on l'a fait ensemble. Et en fait, on est amis et on s'aime et on se soutient. Enfin, parce que du coup, ma productrice a développé en parallèle sa boîte de prod. Enfin, c'est génial de monter ensemble, aussi de génération. Et je me suis dit, ça aurait pas du tout été pareil si j'avais été avec un producteur que je connais pas bien, qui est là pour... que c'est mon travail, quoi. Là, c'est vrai que tout est un peu mêlé, quoi. Et puis, dans les métiers artistiques, tout est mêlé, de toute façon. Et en fait, je trouve ça vachement beau.
T'as l'impression que ça fait partie de ton succès?
D'être bien entourée, oui.
Ouais.
C'est sûr. Bah, j'y serais jamais arrivée toute seule. Ça, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est un projet collectif avant tout, quoi. De bonnes rencontres, de gens talentueux qui m'entourent. Enfin, mon film, sans les décors de fleurs, il serait nul. Sans le compositing, il serait nul. Sans le son, il serait pas bien. Enfin, c'est un projet collectif, quoi, que je porte moi, mais qui est l'œuvre de beaucoup de gens qui ont travaillé beaucoup, beaucoup.
Merci, Mathilde.
Merci à toi.
Franchement, c'était canon. Je mettrai tous les liens pour aller suivre ton travail dans les notes de cet épisode.
Trop bien.
C'était très chouette. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis encore bravo.
Merci.
Pour ce jeu. J'en souhaite plein d'autres. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.